À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Nous les avons découverts mardi sur le village étudiant, ils sont tout jaunes, tout neufs, ce sont les vélos qui vont être prêtés gratuitement aux étudiants de Poitiers. On en parle en seconde partie d'émission. Quel est votre rapport à la cigarette? Vous avez peut-être déjà essayé d'arrêter des tas de fois. Des chercheurs poitevins viennent de mettre en place un test qui permet de mieux déterminer votre dépendance au tabac. Et pour en parler, on accueille Marcello Solinas, directeur de recherche au laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques de l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette recherche que vous venez de publier dans Nicotine and Tobacco Research, une revue de référence dans ce domaine. Et vous travaillez donc sur cette dépendance au tabac. Racontez-nous peut-être déjà comment sont nées un petit peu ces recherches sur ce domaine.
Ces recherches, elles se basent sur les constats que c'est toujours difficile d'arrêter de fumer. Et une partie de ces difficultés, c'est parce que les drogues, elles changent les fonctionnements cérébraux et elles créent des mémoires très importantes entre la nicotine, qui est les composants actifs du tabac, et tout ce qu'elle passe autour de nous quand on fume une cigarette. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, en anglais, c'est les cues, en français, c'est les indices environnementaux. Donc, par exemple, la vision d'une cigarette, l'association tabac-cigarette,
café.
Mmh. Toutes ces associations, les copains et la cigarette, voilà, les barbecues et les cigarettes, ça, je sais très
l'alcool
bien.
L'alcool et la cigarette.
L'alcool et la cigarette, etc. Donc, effectivement, ça, il y a des aspects visuels, il y a des aspects plutôt sensoriels, des aspects autres. Et souvent, ces indices, ils vont nous faire donner envie de consommer sans vraiment qu'on puisse prendre conscience de cette envie. En fait, l'envie, elle monte et à un moment, on se retrouve avec beaucoup d'envie et c'est très difficile d'arrêter. Mais ça, elle est peu étudiée dans les tests qu'on connaît à l'heure actuelle pour mesurer les niveaux de dépendance au tabac.
Et actuellement, on fait juste quoi, le nombre de cigarettes par jour, à quelle heure on fume la première cigarette.
Exactement, ça s'appelle un test des Fagerstrom. Et il y a plusieurs questions, c'est cette question sur la base de la nombre de cigarettes, la rapidité, la difficulté. Éventuellement, il y a une question sur la difficulté à se retenir des fumées dans des situations où c'est inapproprié, au cinéma, dans l'avion, etc. Et sur la base de ça, on obtient un score. Donc, il y a deux problèmes dans ça. Un, que c'est souvent lié à la quantité qu'on fume. Et deux, c'est que c'est la personne qui décide son niveau de dépendance.
Elle peut se mentir à soi-même.
Elle peut se mentir. Et des fois, on fait des comportements, on n'est pas conscient de ça. Donc, un test qu'elle mesure directement de manière objective un comportement, ça peut aider. Donc, c'était comme ça que c'est ça les points de départ. Et après, évidemment, on a fait des recherches bibliographiques. On a trouvé des tests faits aux États-Unis, surtout pour des dépendances un peu plus graves, comme l'héroïne, la cocaïne. Et ces recherches ont montré que les tests qu'on a mis en place, ils pouvaient prédire les niveaux de rechute. Donc, avant de rechuter, on pouvait déjà savoir qu'il était plus à risque que moi. Et donc, l'idée, c'est qu'on l'adapte à la cigarette et on commence à étudier comment ça marche, si ça marche bien, s'il y a des aspects intéressants dans ces tests.
Et donc, c'est toute une équipe de chercheurs de différentes disciplines qui travaillent sur ce test.
Oui, parce qu'en réalité, moi, à la base, je suis neurobiologiste et je travaille surtout sur les modèles animaux, sur les fonctionnements cérébraux. Et depuis une quinzaine d'années, par contre, je me suis rapproché à des psychologues qui travaillent à côté au CERC, les laboratoires CNRS des psychologies. Le centre hospitalier Henri Laborie, il y a vraiment les psychiatres et aussi plus accès aux patients. Et après, pour cette étude en particulier, on est allé chercher aussi les chercheurs américains, des chercheurs en Belgique, pour mieux définir les contours de l'étude et pour mieux cibler vraiment les caractéristiques de la population. Et aussi, une fois qu'on a obtenu les résultats, les interpréter, que c'est jamais super facile.
Et justement, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce sujet? Vous en êtes à quelle étape là, de la recherche?
Alors, sur l'addiction, j'ai travaillé depuis trop longtemps pour le dire. Sur les sujets effectivement, spécifiques, effectivement, on a mis pas mal de temps à savoir vraiment qu'est-ce qu'on pouvait faire chez l'homme. C'est toujours difficile. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on discute de ça. Et on a affiné, il y a plus ou moins 10 ans, on a dit, on fait ça, on a contacté les collègues, on a développé les tests, on a fait passer les tests à des participants, ça c'était fait en ligne, et donc ça a mis un moment, et là on est... en fait, on est à niveau des publications. Les premiers résultats sont des résultats, encore une fois, sur des personnes, des participants sur Internet, et qui n'ont pas envie de forcément d'arrêter de fumer. Et l'idée maintenant, c'est voir si chez les patients, qu'elles veulent venir, qu'elles vont chez les médecins, qu'elles vont chez les tabacologues pour arrêter de fumer, si ces tests ont vraiment un intérêt clinique.
Et en quoi il consiste? Qu'est-ce qui est différent de ce test dont on parlait avant, qui est juste sur des questions et sur ce que dit le patient?
Donc, ces tests, en fait, en réalité, on fait aussi des questions. Donc, on pose bien les questions. C'est un test qui s'ajoute à la batterie des tests qu'on fait déjà. Et après, en fait, c'est un jeu presque ludique. Il y a des cartes. Et les cartes sont couvertes et les personnes doivent découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces cartes. Et en fait, on le dit au début, il y a 4 catégories des cartes, des images neutres. Hein. C'est un escalier, une ampoule, rien d'intéressant vraiment. Après, il y a des images déplaisantes un peu. Donc en général, ça peut être des animaux en captivité, etc. Et après, il y a des images plaisantes. Là, c'est des images... des bébés souriants, ou des beaux panoramas, des images à la mer, etc. Et après, il y a des images tabac. Et la personne, donc, elle doit découvrir la tâche. Elle dit seulement qu'il faut choisir l'état d'écart qui est le plus attirant pour la personne. Et donc, la personne, elle va choisir les cartes, elle va voir les images, et en fait, elle clique pour voir les images qu'elle préfère. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que justement, chez les fumeurs, la sélection des images tabac, elle est beaucoup plus forte que les non-fumeurs. Ça, c'est intéressant, mais c'était assez attendu. Qu'est-ce que c'était moins attendu? C'est qu'on pose la question avant les tests, combien d'envies fumées vous avez maintenant de 1 à 10? Et plus on a envie de fumer, et plus on clique sur les images des tabacs. Et finalement, les personnes, les cartes, en réalité, elles changent des positions au fur et à mesure du jeu. Et donc, la personne, elle ne sait jamais quel tas des cartes. Elle doit un peu essayer de comprendre. Il y a 40% des participants qui ne savent pas dire quelle carte ils ont choisi. Et même si, sans savoir exactement ce qu'on a fait, on choisit plus les tabacs. Donc, c'est évidemment un processus qui est en partie inconsciente. Qu'est-ce que c'est inconscient? C'est moins facile à contrôler. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le contrôler.
Et qu'est-ce que ça va permettre, maintenant que vous avez découvert ça, qu'on arrive à comprendre cet état de dépendance des gens avec ce test, quelle sera la suite?
La suite, c'est vraiment, est-ce que ça, il y a un bénéfice clinique? Donc ça veut dire, est-ce qu'un médecin... il peut justement savoir que la personne qui a un score plus élevé dans ces tests, elle a un risque de rechute supplémentaire. S'il y a un risque de rechute supplémentaire, il peut lui suivre mieux. Hein. Les personnes qui n'ont pas des risques, elles n'ont pas besoin d'être suivies. Ils rentrent à la maison, c'est fait. Là, donc peut-être on peut les suivre mieux. Mais ça peut être aussi que ces tests, elles vont mettre en évidence des personnes qu'elles sont différentes d'autres. Et donc, ils ont besoin d'un traitement différent. Par exemple, il peut répondre à une thérapie cognitivo-comportementale de manière différente. Hein, la thérapie cognitivo-comportementale a besoin, en fait, de la conscience. Mais si on n'a pas accès à cette information, on ne peut pas accéder. Donc, peut-être qu'il faut utiliser des stratégies d'évitement qui sont un peu plutôt habituelles. Donc, il faut apprendre. Et ça, il pourrait marcher sur ces patients qui n'ont pas accès à cet aspect des consciences.
Parce qu'arrêter de fumer, ce n'est pas qu'une question de volonté. Quoi.
Exactement.
Il faut avoir envie au début, mais...
Exactement. C'est pas seulement une question des volontés. La volonté, c'est pour initier, mais pour maintenir, il faut aussi se retrouver à prendre des stratégies d'évitement. Et ces stratégies d'évitement, elles peuvent passer par des connaissances différentes. Et les tests, ils pourraient au moins guider peut-être les médecins à faire les choix de la thérapie le plus appropriée.
Un grand merci à Marcello Solinas, donc directeur de recherche au laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques de l'INSERM, Université de Poitiers, d'être venu nous présenter les résultats de cette recherche donc, qui ont été publiés dans Nicotine and Tobacco Research, donc une revue qui fait référence en fait, dans ce domaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique avec Anzou, rappeuse ouvertement féministe. Voici son titre, « Reine de cœur ».
Et aucune image jamais ne me gardera enchaînée. Écoute un peu après le kick que je vais enchaîner. Tellement transcendante qu'on dirait que je pratique la saignée.
Qu'on lui coupe la tête.
J'ai pas tourné la page, je vais lâcher. Je suis rentrée du bar complètement déchirée. Croise un type chelou, ses disquettes sont tachées. Oh. Je vais pas lui faire tourner la tête, non, je vais lâcher. Maintenant, mon gars, que je vais pas t'enlacer. Car quitte à être dépendante, je crois que je préfère y lasser. Bon gars, tu sais que t'es dans la sauce. Car il faudra plus que ça pour qu'on aille dans la suite. Trop de conneries, va falloir assumer. Je n'ai plus confiance en la race humaine. Bâtard, si tu crois que je vais me soumettre, tu vas vite capter que c'est toi la sous-mère. Baba Yaga, baby, la misogynie commence par la galanterie. Donc oublie, pas de batterie, je fais que dans la charcuterie. J'ai plus de confiance en la race humaine. Quoi dire à ma sœur pour la rassurer? La vie est un ring, va falloir y suer. Donc je prends mes meilleurs armes pour pouvoir assurer.
À quoi tu penses?
Je
donne ma langue au chat.
Il est de toi en plus.
Ah ouais?
Et on accueille Francky Angebeau, conseiller municipal délégué à la ville cyclable pour la ville de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en cette rentrée toute jaune de la couleur des vélos que vous allez louer gratuitement aux étudiants pour la rentrée universitaire. Alors, j'imagine que c'était une envie que vous aviez depuis le début de votre mandat de permettre ça aux étudiants.
Oui, effectivement. Donc, le public étudiant sur le territoire de Grand Poitiers, puisque pour le coup, c'est Grand Poitiers qui porte cette initiative. Le public étudiant est un public intéressant, en tout cas en matière de mobilité, parce qu'il y a un public important et donc il s'agit d'inciter les étudiants à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Mais c'est aussi un enjeu majeur pour l'Université de Poitiers notamment, avec qui on a travaillé en grand partenariat en tout cas sur ce projet-là. Et donc il s'agissait de proposer une offre supplémentaire pour les étudiants et comme elle est gratuite, elle sera très incitative pour le coup.
Parce qu'effectivement, ça s'est fait en discussion avec l'université. Quels étaient les constats? Trop de monde qui vient en voiture sur le campus?
Alors, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent leur voiture quotidiennement. On sait que le budget des étudiants n'est pas extensible et c'est vrai que c'est aussi un coût d'utiliser sa voiture au quotidien. Donc, il y a déjà des solutions qui existent depuis fort longtemps. C'est le transport en commun qui est quand même plutôt intéressant et sur lequel il y a une tarification pour les moins de 28 ans qui est à moitié du prix total donc, et qui peut aussi être abaissé en fonction du quotient familial de l'étudiant. Malgré tout, on s'est rendu compte que sur le vélo, il y avait sans doute un petit manque, entre guillemets, en termes de proposition. Et c'est pour ça qu'on a fait cette proposition supplémentaire en créant le service Cap sur le vélo Campus.
Parce qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a les bouchons, il y a la pollution, il y a la place sur les parkings. En fait, ça crée des tas de difficultés pour l'université.
Oui, tout à fait, hein, clairement. Et puis, l'université a aussi des ambitions en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité même de l'université et les mobilités des étudiants fait partie en fait de ces enjeux-là. Donc, bien évidemment, l'université était très intéressée par ce dispositif.
Parce qu'un étudiant qui arrive à Poitiers ne vient pas forcément avec son vélo ou n'a pas forcément de vélo. C'est compliqué en termes de logistique et de coûts.
Tout à fait. C'est vrai que, comme je le disais, le budget des étudiants est souvent un peu limité. Et donc, c'est vrai que le fait d'acheter un vélo, ça peut être problématique pour certains étudiants. L'accès au vélo, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on doit absolument apporter des réponses. Et je pense que cette solution de Cap sur le vélo Campus est une vraie solution apportée aux étudiants de Poitiers.
Comment ça va se passer concrètement pour les étudiants et étudiantes qui seraient intéressés?
Oui. Alors pour l'instant, on a fait l'acquisition. Donc c'est Grand Poitiers qui a fait l'acquisition d'une flotte de 300 vélos neufs qui ont été mis à disposition. Donc c'est l'association Recycle à qui on a confié la gestion de cette flotte de vélos. Donc c'est l'association Recycle qui sera l'interface entre les étudiants et puis cette flotte de vélos. Donc pour l'instant, on est parti sur 300 vélos neufs parce qu'on voulait partir sur une flotte assez conséquente quand même pour lancer la démarche. Mais cette flotte va ensuite être complétée et notre idée, c'est de la compléter avec des vélos issus du réemploi. Donc ça serait des vélos qui seraient reconditionnés, remis en état de fonctionnement dans toutes les bonnes conditions de sécurité pour pouvoir ensuite être aussi mis à disposition des étudiants.
Donc 300 vélos pour débuter, ce sera gratuit, ce sera pour combien de temps
Alors c'est une location, alors on parle de location même si elle est gratuite, mais c'est sur des durées de moyenne et longue durée, donc c'est minimum un mois, mais ça peut aller jusqu'à 12 mois et avec différents types qui s'adapteront en fonction du besoin de l'étudiant. Un étudiant qui est présent que 6 mois sur Poitiers, bah, il peut le louer que 6 mois. Si par contre derrière il enchaîne sur un stage qui se situe aussi sur le territoire de Grand Poitiers, bah, il peut prolonger sur la durée de son stage. Donc on a essayé de faire quelque chose d'assez souple pour que ça cale au mieux aux besoins de l'étudiant.
Vous êtes parti sur 300 au départ. Comment vous avez évalué ce besoin?
Alors, c'était aussi une question budgétaire parce que acheter des vélos neufs, c'est quand même un coût. Et donc, forcément, on a essayé de tabler sur une enveloppe qui était raisonnable d'un point de vue financier, mais suffisamment importante pour pouvoir lancer une vraie dynamique. Mais là, clairement, petit à petit, on va compléter cette flotte parce que je pense que ça risque de connaître un grand succès.
Et puis, la maintenance est comprise?
Tout à fait. Alors la maintenance normale de ce vélo est prise en compte dans le cadre de ce contrat de location gratuit. Donc c'est l'association Recycle qui recontactera les étudiants en gros tous les 6 mois pour faire la maintenance, pour s'assurer du bon fonctionnement du vélo. En revanche, si le vélo est détérioré de manière inhabituelle, si l'étudiant n'en prend pas soin, qu'il est abîmé, voire qu'il est volé, là pour le coup, en fait, toutes les réparations seront à la charge de l'étudiant si ça ne rentre pas en compte dans l'usage normal du vélo.
D'ailleurs, il y a une caution au départ.
Tout à fait, il y a une caution de 200 euros, alors qui n'est pas débitée sur le compte de l'étudiant. Hein. C'est juste une empreinte bancaire qui est prise, qui sera débitée uniquement s'il y a non-restitution du vélo, notamment en cas de vol.
Et est-ce qu'il faut assurer son vélo?
Alors, c'est conseillé. Donc, nous, on ne l'oblige pas dans le cadre de ce contrat de location gratuit. Malgré tout, on propose deux assurances que les étudiants sont libres d'utiliser. Donc une première assurance de responsabilité civile qui peut leur coûter à peu près 4,80 € par mois. Et il y a une assurance complémentaire qui permet le rachat du dépôt de garantie, ce qui fait que si jamais il y a un vol de vélo, ils n'auront pas à restituer le dépôt de garantie de 5,30 € par mois. Mais ça, c'est libre à l'étudiant après de prendre ou pas cette assurance. Mais bien évidemment, on conseille à l'étudiant de s'assurer sur le vélo.
Sachant qu'il y a quand même un antivol qui est fourni avec.
Tout à fait, il y a tout l'équipement de sécurité, il y a aussi l'antivol. L'université va même apporter des éléments de sécurité supplémentaires, casque et chasuble, pour justement permettre à l'étudiant de rouler en toute sécurité, même si ce ne sont pas des équipements obligatoires pour rouler en agglomération. Malgré tout, ce sont des équipements de sécurité supplémentaires. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que ça se fasse vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et juste une petite précision, on est sur des vélos musculaires, donc... On pense que le public étudiant, jeune, généralement plutôt en bonne santé, a tout à fait la possibilité de se déplacer avec un vélo musculaire et ça contribuera aussi à améliorer la santé des étudiants au quotidien.
Est-ce que vous savez s'il y a des premiers retours? Ils étaient présentés là cette semaine, donc je ne sais pas s'il y a déjà eu des prêts.
Alors, le lancement était mardi dernier, donc il y a deux jours, donc effectivement, c'est tout récent. Il y avait déjà des contacts qui avaient été pris auprès de Grand Poitiers, auprès de l'association Recycle, pour justement se renseigner et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a aussi des contacts qui ont été pris mardi sur le village étudiant, en fait, qui était sur le campus. Et bon, on sent qu'a priori, il y a quand même un engouement. C'était une information aussi qui était délivrée dans le livret d'accueil des étudiants. Donc, je pense que l'information a été diffusée largement. Donc, je pense que ça y est, le bouche à oreille commence à fonctionner et qu'il va y avoir de plus en plus de demandes à ce sujet.
Et puis, ça s'inscrit dans toute une politique de mobilité entre le centre-ville et le campus, puisque vous venez d'inaugurer le Pont-Neuf.
Tout à fait. Hein, ce n'est pas anodin de lancer cette flotte de manière concomitante avec l'ouverture du faubourg du Pont-Neuf, avec cet aménagement cyclable qui a... pas encore complètement terminé sur toute sa longueur pour rejoindre le campus, mais les derniers travaux sont en cours de finition, donc ce sera le cas dans quelques semaines, avec une continuité cyclable sécurisée pour rejoindre le centre-ville au campus. Donc là, pour les étudiants, je dirais qu'il n'y a plus aucune excuse pour utiliser le vélo.
Et ensuite, ce sera jusqu'au Futuroscope, on en parlait en off tout à l'heure.
Tout à fait, c'est un autre axe sur lequel on travaille depuis le début du mandat, où il y a déjà des portions qui ont été réalisées, mais l'objectif, c'est d'avoir une continuité cyclable aussi sécurisée pour rejoindre Poitiers jusqu'au Futuroscope. L'objectif, c'est que ce soit réalisé pour fin 2025.
Et là, pour le faubourg du Pont-Neuf, quels sont les retours depuis 15 jours maintenant?
Alors, depuis 15 jours, on voit qu'effectivement, les Poitevins, Poitevines reprennent un petit peu leurs habitudes sur le faubourg, qui a clairement changé, puisque maintenant, il y a un aménagement sécurisé pour les cyclistes. Il y a aussi des carrefours qui ont clairement changé. Le carrefour entre le Pont-Neuf et Jean Jaurès est devenu un carrefour dit à la hollandaise, en fait, pour faciliter les mobilités de tous, que ce soit les vélos, les piétons, mais aussi les automobilistes et les bus. C'est vrai que c'est des nouvelles habitudes à prendre. On voit quand même, moi je le parcours tous les jours, je vois qu'il y a quand même beaucoup de cyclistes qui se sont emparés, en tout cas de cet aménagement. Donc on voit qu'a priori, de manière subjective, parce que j'ai pas fait de comptage, on n'a pas encore fait de comptage pour l'instant, parce qu'on attend aussi que les usages se stabilisent pour avoir des chiffres qui soient un peu plus représentatifs. Et c'est vrai qu'en tout cas, visuellement, on voit que les cyclistes se sont emparés de l'aménagement et ça, c'est plutôt un bon succès.
Et il y aura peut-être de la pédagogie à faire, justement, ou alors plus de signalisation. Enfin, ça, c'est en cours.
Oui, tout à fait. On observe aussi comment ce qui fonctionne et ce qui n'est pas encore bien compris par les différents usagers qui utilisent le faubourg pour justement apporter des correctifs, faire de la pédagogie aussi. Et puis, à un moment ou un autre aussi, peut-être de la répression quand on a des véhicules qui sont stationnés pas à l'endroit où ils sont autorisés à se stationner et que ça puisse, quand ça peut gêner soit les piétons, voire même les cyclistes sur certains des types d'aménagements, là aussi, il s'agit à un moment ou à un autre de remettre les choses dans l'ordre pour que tout le monde ait bien sa place en sécurité.
Et pour le stationnement, il y en a qui doivent ouvrir aussi, parce que là, c'est vrai qu'il y en a moins qu'avant.
Tout à fait, ça faisait partie des engagements que nous avions pris dans le cadre de cet aménagement, de recréer des poches de stationnement. Donc là, on vient de faire l'acquisition d'un bâtiment, enfin d'une maison qui est juste à l'entrée du Confort Moderne, qui était une maison qui était abandonnée, en fait, qu'on va donc détruire pour faire une poche de stationnement supplémentaire, à la fois pour les voitures, donc avec du stationnement pour les résidents, du stationnement aussi du stationnement minute pour les commerces qui sont dans le quartier et des stationnements vélo aussi, puisqu'il y a de plus en plus de cyclistes sur le terrain, il faut absolument qu'il y ait aussi du stationnement vélo pour pouvoir accéder aux commerces qui sont sur le quartier.
Et pour les bus, est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que la gratuité sera envisageable aussi pour les étudiants et étudiantes?
Alors pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Là, on va voter fin du mois en conseil communautaire le plan de mobilité de Grand Poitiers. Dans les différentes actions qui sont dans le cadre de ce plan de mobilité, a été inscrit de se réinterroger sur la gratuité des transports en commun. Donc pour l'instant, le travail n'est pas encore entamé, mais en tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler prochainement.
Un grand merci Francky Angebaud, donc conseiller municipal de la ville de Poitiers, d'être venu nous parler de cette offre de prêt de vélo gratuit pour les étudiants et étudiantes de Grand Poitiers. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Et l'agenda est présenté par Yves. Bonjour Yves.
Oui, bonjour Anaïs. Alors, que faire à Poitiers en cette fin de semaine? Je vous ai sélectionné quelques sorties culturelles qui pourraient vous intéresser. Alors demain, on a OTAP qui organise en avant-première le film posthume de Sophie Filière, Ma vie, ma gueule, interprété notamment par Agnès Jaoui, et qui sera présente à cette soirée pour dédicacer son dernier livre en compagnie de sa co-autrice Cécile Partouche. Ce sera donc vendredi à partir de 18h au TAP Théâtre pour les dédicaces et au même lieu à 20h pour la projection du film. Dimanche, on aura Woodstock, le documentaire de Michael Waldeg sur le festival, le fameux festival du même nom, sorti en 1970 et qui sera projeté au Dietrich à 16h30. Et enfin, si vous ne savez pas faire, quoi faire les soirées du jeudi et du samedi, vous avez La Locomotive, le bar associatif Avenue de la Gare à Poitiers, qui propose de nombreux événements festifs et musicaux et qui tout au long de l'année et qui propose ce soir, ce même soir, du stand-up. Donc les places sont à réserver gratuitement sur, sur le Facebook. Et nous avons également samedi soir deux concerts, Cube du rock alternatif et Post-Connexion du pop post-rock pour ceux qui seraient intéressés.
Merci beaucoup Yves pour cette première à l'antenne. Vous retrouverez Yves dès le mois d'octobre avec toute son équipe d'étudiants et étudiantes pour l'émission Espace Matin tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 9h. Sur Pulsar ce soir à 19h, c'est Change Doer, c'est à 20h Metal Fury. Merci Yann pour la réalisation technique de cette émission. AIC est un groupe turc, kurde, danois qui mélange les racines folk anatoliennes avec de l'électronique nordique. On se quitte avec leur titre Ez Kevokim. Bon après-midi, à lundi.
Radio curieuse et citoyenne.